dans l'intitulé de la commande, les regards du Grand Paris, c'est vrai que je me suis plutôt attardé sur le Grand Paris que sur les regards. Et ce qui me semble important, c'est évidemment l'histoire du Grand Paris. Pourquoi? Parce que c'est avant tout une construction politique, le Grand Paris, pas autre chose. Un territoire, ça ne s'organise pas tout seul. C'est une volonté, depuis bien sûr Lutèce. Comme M. Ollier le fait, vous savez, il fait ça un très beau schéma avec un cône, hein, le cône qui s'agrandit. Cette volonté, elle est née de la loi MAPTA, elle est née en France d'un travail législatif, hein, et d'une loi sur l'intercommunalité. Mon projet était de suivre absolument comment ces nouvelles assemblées, qui sont appelées conseil territorial, allaient s'emparer de cette nouvelle... Alors on a un mot en France, on appelle ça millefeuille administratif. Ce n'est pas du tout un millefeuille, c'est un peu une blague, tout ça. C'est des images journalistiques, mais en fait, comment cette nouvelle instance de parole démocratique allait pouvoir fonctionner. Alors, voilà, donc il y a 12 territoires, de 1, la ville de Paris, hein, jusqu'à toute la périphérie. J'en ai fait 11, ça c'est la 9, on est ici, hein, Grand Paris, Grand Est, on est à Noisy-le-Grand qui est à côté, c'est la maire de Noisy-le-Grand qui est en train de faire voter son PLU. Alors il n'y en a pas 12 parce qu'il y en a un qui m'a refusé l'accès à cette chose qui s'appelle un conseil territorial, qui est normalement ouvert donc... à tout un chacun, aux citoyens, mais le maire de Boulogne-Billancourt m'a téléphoné, j'étais dans le métro, juste à arriver à l'hôtel de ville, en me disant, et c'est intéressant, en me disant, monsieur, le président ne veut pas que vous veniez, madame, elle, ne veut pas que vous veniez photographier. Alors je lui dis, pourquoi ? Pas que je viens photographier. Parce que votre travail est politique. J'ai dit, vous direz un président du territoire, que effectivement mon travail est réellement politique. Il a tout compris. Pourquoi il est politique? Parce que la politique est aussi une esthétique. Et c'est cette esthétique-là dont on parle, dont je parle, chaque fois que je photographie ces assemblées, qui sont conçues, hein, comme un spectacle dont il se dégage une esthétique, mais c'est l'esthétique républicaine, c'est l'esthétique de la démocratie, c'est l'esthétique du pouvoir aujourd'hui en France. C'est important parce que vous voyez ici, toute la construction, c'est une salle de mairie, hein, la Marianne, ils ont rajouté les petits bleus, blancs, rouges, etc. Et, tout. Et dans cette esthétique du décor, hein, qu'on peut voir, il y a aussi ce que dit le corps, ce que dit le corps des participants et ce qui m'intéresse, parce que c'est avec ce corps que l'on porte, les choses que l'on porte, c'est ce qui m'intéresse au milieu des lois qu'on fait, des votes, etc. Comment chacun négocie sa manière d'être dans une assemblée. Voilà, donc ça c'est un peu la description de cette image. On a un raccourci là de tout le travail finalement, hein, d'une partie du travail, je veux dire, qui est le fond de la commande, les 12 conseils territoriaux. Ensuite, il y a peut-être l'autre partie de l'image que je peux peut-être expliquer. Pourquoi cet autoportrait? Parce qu'il y a la position de l'observateur. C'est moi et j'interagis dans cet espace. J'interagis parce que là, c'est le forum métropolitain, c'est une autre instance parce qu'il y a eu les conseils territoriaux, il y a eu le forum métropolitain qui m'a accueilli d'ailleurs, qui n'est pas un forum, vous savez, c'est un syndicat d'élus qui a été fondé par De Vedjian, qui se réunit dans un rue de Lyon et qui mélange les élus de la région, des maires d'Île-de-France, des conseils départementaux, et qui essaye de réfléchir. Parce que contrairement à ce que peut penser l'opinion, le Grand Paris ne se fait pas contre, hein, contre le département, contre la région, contre la préfecture. Le Grand Paris se fait en symbiose, là j'ai l'impression de faire du Ollier, avec toutes ces instances. Et dans ce forum métropolitain, c'est très intéressant parce que aussi il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas de public. Et ce que j'ai pu voir un matin à 7h du matin, quand c'était à 7h30 la réunion, c'est aussi des hommes politiques aux prises avec la fatigue, aux prises avec leur rêverie et aux prises avec des problèmes techniques qui ne sont pas du spectacle, hein, qui sont aussi vraiment du travail politique. Alors le spectacle est différent, mais il touche l'intime, comment chacun est intime dans ce qu'on pourrait peut-être appeler, pour une fois, ce qu'est le travail politique, hein, du rapport à l'autre, l'autre élu, etc. Comment on se comporte Madame Pécresse avec Madame Hidalgo, les amitiés, les clins d'œil, les souhaits. Bon, c'est aussi une autre manière qui est moins médiagénique que celle-ci. Voilà, d'être. Durant tout ce travail, c'est vrai que je n'ai pas rencontré un seul journaliste, très peu de personnes, de citoyens, alors que c'est ouvert aux citoyens, c'est annoncé. Après, il a fallu que je me déplace, hein. Il a fallu que je me déplace entre ces conseils. Il a fallu que je négocie ces choses-là. Chaque fois, je pense que c'était très compliqué parce que souvent, comme par hasard, alors je ne sais pas pourquoi, ils sont le lundi soir ou le mardi soir, et généralement le premier mardi du mois, le premier lundi du mois, tous en même temps. Donc, il a fallu que je gère ces choses-là, des fois deux dans la journée, si c'est à 7h30, etc. Et surtout avoir l'autorisation. Parce que c'est des instances qui sont très sensibles, très chaudes entre les mairies, parce qu'on fait des transferts de compétences. Donc qui va avoir quoi, de qui, de quoi. C'est assez intéressant. Et donc mes déplacements entre ces lieux. Et alors je trouvais intéressant que ces déplacements, je les ai inclus dans mon travail, hein, il y a des images de ces déplacements, mais que durant ces déplacements, il y a quelqu'un qui m'a accompagné, c'est Condorcet. Alors Condorcet, parce qu'effectivement, dit Nicolas de Condorcet, est mort, hein, dans un lieu qui s'appelait Bourg-l'Égalité, qui est Bourg-la-Reine, hein, le premier rédacteur de notre constitution, qui n'a jamais été appliquée, qui était la première constitution girondine. C'était intéressant parce que les fondements de la démocratie, comme vous pouvez les lire dans les images ou celles qui sont dans le conteneur, ce qu'on a appelé le théorème de Condorcet, hein, il a posé vraiment les fondements du vote démocratique. Qu'est-ce qu'un vote démocratique? Pourquoi, quand on a A, B, C comme candidat, un nombre de candidats, etc., c'est pas forcément celui qui gagne, comme on le sait aujourd'hui, qui a les suffrages vraiment de la population, puisque les deux qui étaient B et C ont plus de suffrages, etc. Donc toutes ces choses-là étaient passionnantes, et c'est avec ces choses-là que j'ai voyagé, en fait, pour aussi, dans mon travail, retourner, je crois, quelque chose qui est intéressant, c'est la pensée des Lumières, hein. Et Condorcet à ce propos est quand même intéressant. Et c'est vrai que l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain et Fragments sur l'Atlantique, vous voyez, m'ont accompagné pendant tout mon voyage. Voilà. Les écrits les plus intéressants sont dans ces écrits politiques, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut en lire un passage? Oui. Bacon avait conçu l'idée d'une société d'hommes uniquement dévouée à la recherche de la vérité. Son plan embrasse toutes les parties des connaissances humaines. Une foule d'observateurs parcourt sans cesse le globe pour connaître les animaux qu'il habite, les végétaux qu'il nourrit, les substances répandues sur sa surface et celles qu'il renferme dans son sein pour en étudier la forme extérieure et l'organisation. Il cherche à reconnaître les monuments et les preuves des anciens bouleversements de la Terre, à saisir les traces de ces révolutions paisibles dont la main lente du temps conduit la marche insensible. D'autres hommes, fixés dans les diverses régions, y suivent avec une exactitude journalière les phénomènes du ciel et ceux de l'atmosphère terrestre. De vastes édifices sont consacrés à ces expériences qui, forçant la nature à nous montrer ce que le cours de ces opérations ordinaires cacherait à nos regards, lui arrache le secret de ses lois, etc., etc. Et alors, ce qui est intéressant, parce que Fragments sur l'Atlantique, c'est le dernier texte de Condorcet, c'est qu'on trouve dans ce texte, c'est-à-dire une utopie, hein, d'une société qui regrouperait les scientifiques dans une même communauté, un même pays, où ils ne se consacraient qu'à l'étude de la science. Finalement, on retrouve ce que Monsieur Ollier a du mal à prononcer, mais ce qui est assez drôle, la définition de la smart city. Hein, de la ville intelligente. Voilà. Et bon, bien sûr, hein, d'une autre manière, mais comme il dit, je me suis placé dans un pays où les lumières générales et la connaissance des droits de l'homme ne permettraient pas de craindre qu'on voulût jamais fonder le bonheur public sur l'égalité de l'ignorance et de la sottise. Ainsi, personne ne pourrait y donner les bornes étroites de son intelligence pour celle de la raison humaine, y faire enseigner ses préjugés comme les seules vérités dignes d'être connues.